Aujourd'hui, la Turquie et l'Iran sont toutes les deux des puissances moyennes émergentes en quête de statut, de pouvoir et de puissance sur la scène internationale. Et donc, tout rapprochement entre ces deux puissances émergentes est naturel et plus que logique. La visite du ministre des Affaires étrangères iranien à Ankara est justement à replacer dans un double contexte. D'une part, elle a lieu justement après le coup d'État raté en Turquie, où les Iraniens ont été parmi les premiers à afficher leur soutien au gouvernement turc contre les putschistes. Et ceci a été très apprécié à Ankara, surtout que cela contrastait avec la prise de position, je dirais, ambiguë des Occidentaux face à ce putsch. Et d'autre part, cette visite s'inscrit aussi dans le cadre de la crise syrienne. Comme on le sait, Ankara et Téhéran soutiennent des camps opposés dans cette crise. Donc Téhéran se range du côté du régime de Assad, alors qu'Ankara appelle au renversement de ce régime et soutient l'opposition armée. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que la Turquie révise sa politique à l'égard de la Syrie après le coup d'État manqué. Étant donné que la Turquie aujourd'hui, que le gouvernement AKP est occupé à lutter contre le mouvement Gulen à l'intérieur, eh bien, il n'a plus les moyens de mener une politique étrangère agressive vis-à-vis de la Syrie. Il n'a plus les moyens de se concentrer et de concentrer ses moyens sur le soutien à l'opposition armée contre Bachar el-Assad. Et donc aujourd'hui, la Turquie s'oriente à normaliser relativement ses relations avec le régime d'Assad, et ceci est impossible sans une médiation russe et iranienne.
On peut à la fois parler d'un changement de stratégie du président Erdogan et d'un opportunisme qui passe outre les divergences géopolitiques entre les deux pays.
Tout à fait. Aujourd'hui, le président Erdogan sait très bien que, afin de renforcer sa position à l'intérieur de la Turquie sur le plan de la politique interne, eh bien, il est obligé de redonner à la Turquie, à son pays, une aura, un prestige sur la scène régionale. Et il est impossible à la Turquie d'acquérir ce nouveau statut de puissance sur la scène régionale moyen-orientale sans normaliser ses relations avec la Syrie. D'où ce rapprochement géopolitique avec les Russes et avec les Iraniens.
Quelles pourraient être les conséquences, aussi bien en termes de risques que d'opportunités, de rapports bien plus importants entre l'Iran et la Turquie ?
Le risque, c'est certainement la réaction occidentale. Aujourd'hui, les Occidentaux, que ce soit les Européens ou les Américains, sont méfiants vis-à-vis du rapprochement de la Turquie avec l'Iran, mais aussi de la Turquie avec la Russie. Et justement, aujourd'hui, les Occidentaux craignent que la Turquie soit en train de changer d'axe en matière de politique étrangère et de complètement tourner le dos à l'Occident. Alors moi, je pense qu'il faut être très prudent. Tant que ce qui se passe actuellement, ce rapprochement avec l'Iran, avec la Russie, est en fait une tactique de court terme. Mais ce n'est pas une alliance stratégique de long terme qui est en train de se forger entre ces trois pays. La Turquie est bien ancrée dans les institutions occidentales. L'atlantisme de la Turquie est un élément clé, un élément de continuité dans sa politique étrangère qu'il est très difficile de remettre en question. Aujourd'hui, ce que le gouvernement AKP est en train de faire, c'est du chantage politique, du chantage diplomatique. Erdogan, qui a été déçu par la réaction européenne et américaine vis-à-vis de la tentative de coup d'État, il prend sa revanche. Il dit aux Occidentaux, soit vous me soutenez, soit je vais me tourner vers l'Orient, vers la Russie, vers l'Iran.
Vous parlez de chantage politique à l'égard des puissances occidentales. Est-ce que Erdogan pense également à toutes les opportunités économiques, manufacturières ou énergétiques que pourrait lui procurer un rapprochement avec l'Iran ?
Évidemment, aujourd'hui, le volume des échanges économiques entre l'Iran et la Turquie est de l'ordre de 13 milliards de dollars. La Turquie a besoin justement du gaz iranien. La Turquie est une puissance pauvre en énergie et en même temps, c'est une économie en pleine croissance. Donc, elle a absolument besoin de diversifier et de garantir justement ses approvisionnements en énergie, d'où cette coopération avec les Iraniens. Et je dirais pour caractériser la relation entre la Turquie et l'Iran, je dirais qu'il faut revenir à ce terme anglais « frenemy », qui est en fait la contraction des deux termes « friend » et « enemy », « ami » et « ennemi ». La Turquie et l'Iran ont toujours été des ennemis, deux puissances rivales, parce que toutes les deux cherchent justement à imposer leur influence et leur leadership sur le Moyen-Orient, mais en même temps, elles sont obligées d'être des amies, parce qu'elles sont obligées de coopérer, toutes les deux ont besoin l'une de l'autre sur le plan économique et énergétique. Donc la Turquie importe le gaz iranien et en échange, les Iraniens importent les produits manufacturiers turcs qui sont très compétitifs comparés aux autres produits importés par exemple de l'Europe ou des États-Unis.
Quel est le plus ou le moins à gagner si la Turquie se retire des négociations avec l'Union européenne et si elle se dirige en direction de l'Iran ou vice-versa ?
Alors, la Turquie ne va jamais tourner le dos complètement à l'Union européenne. Elle ne va jamais mettre de côté ou abandonner sa candidature et ses négociations avec l'Union européenne pour justement obtenir le statut de membre. En fait, aujourd'hui, la Turquie est tout simplement en train de mener une diplomatie de puissance émergente qui consiste à diversifier autant que possible ses partenaires, ses alliés, ses relations en matière de relations internationales. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde bipolaire où il faut s'aligner sur un camp contre un autre. Et justement, la Turquie a compris qu'on est passé à une scène internationale plus diversifiée, où il faut tisser des relations, des fois donc multiples, mais aussi des fois antagoniques, avec des acteurs différents. Aussi, il y a un autre point à garder en tête, c'est que le gouvernement AKP sait très bien qu'il y a une relation dialectique entre sa candidature, la candidature de la Turquie à l'Union européenne, et le prestige et le statut de la Turquie sur la scène moyen-orientale. Dans la décennie 2000, le gouvernement AKP a pu donner à la Turquie une aura sur la scène moyen-orientale, précisément parce qu'il a présenté la Turquie comme un pays musulman, mais en même temps ouvert, moderne, précisément parce qu'il est candidat à l'Union européenne. Et aujourd'hui, si la Turquie perd son ancrage en Europe et perd son ancrage plus généralement en Occident, eh bien nécessairement et automatiquement, elle va perdre aussi de son image positive et de sa puissance douce au Moyen-Orient. Donc je pense que le gouvernement AKP va continuer à jouer ce grand écart entre l'Orient et l'Occident, entre les puissances développées du Nord et le tiers-monde. C'est finalement le jeu auquel se livrent toutes les puissances émergentes. Ce n'est pas quelque chose de spécifique, de particulier à la Turquie.
On ne peut pas encore parler d'une reconfiguration de la stratégie internationale turque sous l'effet du changement causé par le putsch.
Pas du tout, pas du tout. Il y a une continuité dans la politique étrangère turque depuis les années 2000. Dès l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002, il y a eu une volonté de jouer constamment au grand écart, de jouer à ce jonglage diplomatique entre le Nord et le Sud, entre l'Orient et l'Occident, de mettre à profit toutes les relations que la Turquie peut tisser sur la scène internationale pour justement faire en sorte que la Turquie s'impose comme un acteur incontournable. Aujourd'hui, la Turquie est tout simplement en train de faire un coup diplomatique en se rapprochant de l'Iran et de la Russie. Elle est en train d'envoyer un message fort aux Occidentaux. Acceptez-moi comme un partenaire, reconnaissez-moi comme un acteur à part entière de la scène internationale et alors je resterai, si vous voulez, dans le camp des Occidentaux.